carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Nicolas Sainte-Fargarneau, historien de l'art, spécialiste de la peinture du XVIIe siècle et conservateur au musée Jacquemart-André, a conçu, avec Véronique Gérard-Powell, historienne de l'art moderne, spécialiste de la peinture espagnole, l'exposition du Gréco à Dali, présentée au musée à Jacquemart-André du 12 mars au 1er août 2010. Le public peut voir 52 toiles de la très belle collection de Juan Antonio Simón Pérez, qui compte à peu près 5000 tableaux, dont 3000 en rapport avec la grande tradition picturale espagnole. Une collection nouvelle, exceptionnelle, constituée depuis 40 ans seulement, mais qui est promise visiblement à un très bel avenir. Avec nous pour parler aujourd'hui de cette exposition, Nicolas Sainte-Fargarneau, bonjour.
Bonjour.
Nicolas Sainte-Fargarneau, comment est né, c'est la question classique, mais comment est né ce projet d'exposition qui permet aux visiteurs à Paris de voir plusieurs siècles,
oui.
quatre siècles de peinture espagnole.
Écoutez, avec Jean-Pierre Bablon, qui est membre de l'Institut et président de la Fondation Jacquemart-André, nous avons depuis plusieurs années marqué le souci de montrer des collections équivalentes à celles qu'avaient formées Nelly Jacquemart et Édouard André. Le musée Jacquemart-André est aujourd'hui, on a le plaisir de le constater, un grand musée parisien, mais à l'origine, n'oublions pas que c'est une collection particulière. Et de ce fait, c'est un petit peu des collections de même famille, de même esprit que nous souhaitons montrer ici dans nos murs, tout simplement parce que leur accueil est le bienvenu et le plus évident, alors qu'ailleurs, les choses seraient peut-être différentes. Donc voilà, nous recherchons ce type de projet et vous savez que depuis quelques mois, quelques années, donc, nous avons déjà réalisé des manifestations de ce type. Je vous rappelle que la dernière, la collection Bruckenthal, c'est une collection qui a été réalisée au 18e siècle à Vienne par Baron von Bruckenthal, qui a ensuite ramené dans une, comment dire, un souci de pédagogie ses collections dans son pays d'origine, la Roumanie, et que donc il avait l'intention d'ouvrir un musée pour le mettre à disposition de ses concitoyens. Donc Bruckenthal, ça a été un projet. Et bien aujourd'hui, nous avons le projet Pérez-Simón, qui est un projet qui nous permet aussi de réaliser une autre ambition qui est la nôtre, qui est un petit peu de revenir sur l'art espagnol. Parce que ça fait de très nombreuses années que le public parisien n'avait pas eu la chance de, comment dire, se confronter à l'art espagnol.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cette absence paradoxale d'un pan vraiment fondamental?
Peut-être tout simplement que, et naturellement, nous sommes penchés vers des contacts avec l'Italie ou avec le Nouveau Monde, tout ça s'explique. Et puis on oublie que l'Espagne a été un grand pays, un pays de culture de premier plan. Alors voilà, c'est peut-être une explication, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Vous savez qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu à Lille une grande rétrospective Goya, qui avait été organisé par Arnaud Brejon. Et depuis, eh bien, il faut le dire, on n'avait pas eu de grandes manifestations, grandes expositions de peinture espagnole. Alors j'ai senti un petit peu le besoin de combler ce vide et l'opportunité s'est présentée.
Alors quelle est la singularité de cette collection exceptionnelle?
Cette collection, elle est singulière dans la mesure où elle commence en quelque sorte avec les débuts de la peinture espagnole, c'est-à-dire le 15e siècle. Nous n'avons pas souhaité, pour des raisons particulières, j'y reviendrai plus tard, nous n'avons pas souhaité montrer les panneaux du 15e siècle. Mais si vous voulez, nous avons une continuité, globalement, on peut le dire, une continuité qui nous permet d'aller du début du 17e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle.
Oui, parce que voilà. Je ne l'ai pas précisé, mais l'exposition s'intitule du Gréco à Dali,
voilà.
Mais elle se clôt sur une pièce tout à fait contemporaine, un tableau de ta pièce.
Voilà. Donc si vous voulez, c'est pour montrer son ampleur. Hein. C'est une collection de très grande amplitude et qui montre l'évolution de cette peinture depuis, je le répète, la fin du XVIe siècle, le début du XVIIe siècle, jusque quasiment nos jours. Monsieur Pérez-Simón s'intéresse beaucoup à l'art contemporain. Alors, nous n'avons pas souhaité, je dirais, pousser la présentation jusqu'à des artistes encore très actifs de nos jours. Mais enfin, bon, ta pièce est là pour montrer que l'intérêt de Monsieur Pérez-Simón pour la peinture d'aujourd'hui. C'est un petit peu, si vous voulez, le premier caractère de cette peinture. Le deuxième caractère, je crois qu'il faut souligner, c'est que c'est une collection qui ressemble à son auteur. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, M. Pérez-Simone est très heureux de pouvoir nous montrer des chefs-d'œuvre qui appartiennent à ce que l'on attend. Puisqu'on parle de peinture espagnole, eh bien, si vous n'avez pas un Murillo, on serait très triste. Il y a plusieurs Murillo, je tiens à vous rassurer, et ainsi de suite. Et s'il n'y avait pas un Goya, on serait désolé. Nous avons un Goya à présenter.
Et quel Goya?
Un Goya passionnant. Mais voilà, ce sont des grands chefs-d'œuvre attendus. Puis alors, à côté de ça, il y a ce qu'on pourrait qualifier de coup de cœur du collectionneur. C'est-à-dire que parce qu'un artiste lui plaît, il ne va pas acheter une œuvre, deux œuvres peut-être, mais 10, 20, 30, tout simplement parce que son intérêt s'arrête sur cet artiste et qu'il a envie de pouvoir en montrer toutes les facettes.
Quel artiste a particulièrement séduit
Celui qui vient à l'esprit immédiatement, c'est le peintre Sorolla, qui est donc cet artiste de la région de Valence de la fin du 19e siècle et qui est un peintre de la couleur et de la lumière qui est absolument magnifique et qui a traité cette région avec une sensibilité qui est tout à fait remarquable.
Et on connaît le choix de M. Simone Pérez pour ce regard, enfin on sait par rapport à l'origine familiale.
Non,
c'est la couleur, c'est la lumière.
Non, c'est qu'il a été séduit par la peinture, il nous l'a dit, et aujourd'hui il a certainement l'un des ensembles les plus importants concernant aussi bien les collections publiques que privées. Donc il est vraiment la référence dans ce domaine. Il a d'autres artistes comme ça qu'il apprécie, je pense aussi à Sorolla. C'est souvent, on peut le dire, plutôt le 19e siècle, mais c'est pas pour nous déplaire, loin de là, que M. Pérez-Simone a été, le plus original dans ses choix. C'était aussi la période la plus méconnue. Alors ça s'explique de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il a voulu peut-être jouer un rôle qui est celui de redécouvreur et de montrer qu'il n'y avait pas un grand vide comme on l'imaginait entre 1800 et 1900. On termine avec Goya et on reprend avec Picasso. Et puis, dans les manuels que nous parcourons d'habitude, on ne sait rien de la peinture espagnole entre ces deux dates. Eh bien, la collection Pérez-Simone permet de découvrir quantité d'artistes passionnants qui, justement, sont les maîtres du 19e siècle. Alors, des romantiques, des réalistes, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les costumbrismes, c'est-à-dire les peintres qui ont traité les mœurs et la vie quotidienne du peuple espagnol, enfin des provinces espagnoles de cette période. Donc c'est passionnant, c'est une peinture très colorée, c'est une peinture très costumée, très habillée, et donc très révélatrice, bien sûr.
Alors, quel parcours avez-vous proposé ou proposez-vous aux visiteurs pour se promener dans ces siècles de peinture?
Ces quelques axes qui peuvent expliquer la collection de M. Pérez-Simone nous ont amenés, en accord avec lui, parce que c'est un travail en commun que nous avons réalisé, nous ont amenés à donc proposer au public parisien une série de séquences, si j'ose dire, qui sont des tableaux montrant certains aspects de l'Espagne éternelle. Alors, vous avez les fêtes royales et les fêtes populaires, vous avez aussi la peinture sacrée, vous avez les tableaux de la lumière, et puis vous avez les portraits très importants, et aussi la modernité. Ce sont différents angles d'attaque que nous proposons à nos visiteurs. Et à l'intérieur de chaque séquence, à l'intérieur de chaque salle, nous essayons de proposer le double regard de l'ancien et du moderne.
C'est-à-dire
des confrontations.
On trouve un Dali à côté
d'un tableau XVIIe siècle et ainsi de suite.
Et on voit que ça fonctionne.
Oui.
C'est ça qui est merveilleux. Dans cette exposition, il y a des chefs-d'œuvre.
Oui.
Mais ne serait-ce que quand on arrive dans la première salle pour présenter au public justement des tableaux de l'identité espagnole, vous avez exposé la peinture de l'art de la cour espagnole.
Oui, bien sûr.
Et vous avez découvert, au moment de la mise en œuvre de cette exposition, la petite histoire de très grands tableaux.
Alors, c'est une chose assez étonnante. Évidemment, M. Pérez-Simone, qui a maintenant l'expérience de nombreuses années d'achat, d'acquisition, et puis les gens qui l'entourent, il n'est pas tout seul, il confronte son point de vue à celui de ses conseillers. Voilà, il a rassemblé un certain nombre de tableaux, et ce sont des tableaux qui sont pour la plupart issus du marché de l'art. Et s'agissant de tableaux qui datent du 19e, du 18e ou du 17e siècle, ce sont des tableaux qui n'ont pas toujours l'historique le plus précis, les provenances les plus assurées.
C'est une chance.
Oui et non,
pour le collectionneur.
C'est-à-dire que, mais il a fait preuve de beaucoup d'audace parce que souvent les collectionneurs aiment s'entourer de garanties. Et alors, si on sait qu'un tableau, par exemple, de Murillo sort d'une grande collection aristocratique espagnole, c'est très rassurant. Mais là, la plupart du temps, ce sont des œuvres qui, justement, parce qu'elles ont tellement voyagé de part en part, ce sont des œuvres qui ont perdu ce contexte dans lequel elles ont été créées. Alors, ça a été le rôle essentiel de Véronique Gérard-Powell, qui est professeure à la Sorbonne, à l'Institut d'art et d'archéologie, et spécialiste d'art hispanique. Elle connaît parfaitement bien tout cet art, et lorsqu'on lui a demandé si elle accepterait de nous accompagner dans cette aventure, elle a tout de suite accepté avec chaleur, ça je tiens vraiment à l'en remercier, et elle s'est mise au travail. Que fait un bon historien de l'art ? Bah écoutez, on lui présente un tableau, il essaye d'en, comment dire, rassembler toutes les données historiques, documentaires, et puis aussi d'en faire un beau commentaire. Ce sont les notices qu'elle a réalisées pour le catalogue. Et souvent, elle a découvert des éléments que personne ne connaissait jusqu'alors. Je le répète, c'est parce que ces tableaux avaient perdu le contexte dans lequel ils avaient été créés. Donc de ce fait, elle a découvert l'identité de personnages de haut rang sur certains de ces tableaux. Elle a découvert des historiques et des prédécesseurs en termes de collection à celle de M. Pérez-Simonne. Et donc elle a donné du poids, si vous voulez, si on apprend tout d'un coup que tel tableau de Ribera, par exemple, a appartenu à notre roi Louis-Philippe, eh bien, on se dit que déjà à cette époque, on avait dû sélectionner cette œuvre pour sa qualité d'une part, mais aussi pour son historique, que cette idée était tombée dans l'oubli et que grâce aux recherches récentes, on était revenu à une meilleure connaissance et par conséquent une meilleure appréciation de l'œuvre. Donc c'est un magnifique travail qui a été réalisé par Madame Powell. Donc évidemment, nous lui en sommes très redevables.
Alors, dans cette présentation, on a un portrait fait par Juan Pantoja de la Cruz,
absolument,
portrait royal qui a une histoire.
Ah, d'abord, c'est un magnifique tableau très étonnant, puisqu'en réalité, ce portrait du roi Philippe II, qui est donc un portrait qui date du début du XVIIe siècle, c'est un portrait qui est destiné à accompagner une galerie de portraits royaux, donc tous les ancêtres de Philippe II, et c'est un petit peu la preuve et la garantie qu'il est dans la succession dynastique, et donc à la bonne place. Il prend simplement la suite de ces rois qui ont dirigé l'Espagne. Et on comprend, au vu de cette longue galerie de portraits d'ancêtres, on comprend qu'il est le dernier sur la liste. Mais malheureusement, cette galerie a brûlé. Et Philippe II a été obligé de la recomposer en commandant une deuxième série de tableaux à des artistes de son vivant, en particulier ce Pantoja de la Cruz, et en lui demandant de recomposer la galerie. Et cette deuxième galerie est une galerie qui est restée intacte en l'état jusqu'à la période napoléonienne. Et vous savez qu'au début du XIXe siècle, les armées françaises envahissent l'Espagne et elles vont spolier un certain nombre de grandes collections, notamment celle-là, et donc les tableaux vont être dispersés. Avant l'acquisition du tableau dont nous parlons par M. Pérez-Simonne, on ne connaissait qu'une seule effigie royale provenant de cette deuxième galerie qui est aujourd'hui conservée dans les collections du musée de Bilbao. C'était la seule. Donc vous voyez, un unicum, voilà, une relique en quelque sorte extrêmement précieuse. M. Pérez-Simonne achète ce tableau, celui qui nous intéresse, et l'on remarque la petite griffe qui est au bas gauche du tableau. On comprend qu'il s'agit d'un numéro d'inventaire, on regarde et on s'aperçoit que c'est l'inventaire des collections royales. On va regarder le numéro sur le registre et on s'aperçoit que c'est le tableau qui a été commandé par Philippe II pour la deuxième galerie. Autrement dit, on découvre un deuxième exemplaire de cette série, aujourd'hui disparue ou dispersée. Et donc évidemment, ça donne énormément de prix à cette œuvre. Il y a une deuxième chose que je voudrais souligner, je suis désolé que nos auditeurs ne puissent pas le vérifier immédiatement à la suite de ce que je vais dire, mais s'ils ont l'occasion de venir voir l'exposition et de s'approcher de ce tableau, ils verront que sur la cuirasse, sur le côté gauche de la cuirasse, c'est-à-dire le côté droit du personnage, vous avez des reflets. Et que ces reflets, eh bien, ils donnent la vision du bras, de l'écharpe, du nœud qui est sur le côté.
Tout ça a été extrêmement codifié.
Voilà. C'est codifié et en même temps, si vous voulez, c'est une prouesse technique tout à fait remarquable. Parce que bien entendu, c'est une cuirasse, donc a priori, l'objet est opaque. Et là, il y a cette suggestion
cette
du reflet et de l'image que représente le reflet. C'est aussi une des grandes traditions de la peinture espagnole. Alors, ce tableau qui a l'air de rien, il est magnifique pour ses raisons différentes.
L'exposition aborde aussi, et c'est impossible de ne pas le faire, l'art religieux.
Oui, bien sûr.
En Espagne, avec des pièces uniques, en particulier une miniature du Gréco qui laisse pantois.
Oui.
Et je crois que depuis que je l'ai vue, je ne regarderai plus les peintures du Gréco avec mon regard antérieur. C'est très, très touchant.
Ah, bah, c'est extraordinaire.
C'est habituellement, moi, je ne connaissais que les grands formats du Gréco. Et là,
alors,
c'est.
Vous avez raison de le dire. D'abord, il y a l'effet de surprise. Alors, parlons-en un petit peu.
Oui.
Hein.
Je suis un visiteur lambda.
On sait très bien que le Gréco a réalisé ses grands tableaux d'hôtel pour des couvents ou des cathédrales, donc vraiment des monuments. Et que, profitant de cette dimension qui est monumentale, hein, il faut le dire, évidemment, il a eu tendance à allonger ses formes. Donc les silhouettes, les corps des personnages représentés sont toujours tirés par le haut. Et vous avez une dimension un peu surprenante avec ces personnages qui sont un petit peu allongés. Et là, c'est un petit peu le contraire, parce qu'on a l'impression que l'élongation, elle est transformée dans une densité à laquelle nous ne sommes pas habitués. Alors la petite taille, le petit format amène à une espèce de rétrécissement et nous avons un petit bout de peinture, mais ce bout de peinture, c'est quelque chose d'une force absolument incroyable. Et c'est d'autant plus vrai que l'image représentée, c'est un Christ de douleur, donc c'est un Christ qui lève les yeux au ciel.
On ne voit que la tête.
Voilà, absolument.
C'est
une toute petite représentation de quelques centimètres. Et donc voilà, il lève les yeux au ciel et on voit sur ce regard, on voit les larmes qui apparaissent, l'émotion. Et c'est fait avec une telle, je le répète, densité du fait de ce travail sur la lumière, mais aussi sur la couleur, que vous-même, vous en êtes extrêmement ému. Et donc cette représentation, je parlais de l'effet de surprise parce que il y a aujourd'hui très peu de miniatures de ce type qui sont connues. Il y a deux notamment.
Oui, quand vous dites l'une, très peu, c'est toujours
voilà,
deux ou trois.
Voilà.
Ou une.
Et l'une d'entre elles fait partie de la collection Perret-Simon. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Donc première raison. Deuxième raison, je vous le répète, cet art si fort que le Gréco maîtrise à merveille et dont il nous donne une illustration remarquable. Donc ça, vraiment, c'est une occasion unique. Unique, bien sûr.
Alors, si on peut faire un saut dans le temps, même si c'est le dernier tableau, toujours dans cet art religieux.
Bien sûr.
Peut-être évoquons-nous maintenant Dali.
Oui. Alors, Dali est là, je parlais de...
Parce que dans le parcours de l'exposition,
oui,
comme on le disait tout à l'heure,
voilà,
il y a ce mélange des œuvres.
Absolument. J'évoquais le peintre Sorolla, qui est un des favoris de M. Perret-Simon. On peut dire que Dali l'est aussi. Alors, vous savez, Dali est un personnage, enfin, disons que nous en avons gardé le souvenir plutôt du personnage, presque de ce personnage de théâtre, pourrait-on dire, plutôt que du peintre.
Et il était membre aussi de l'Académie des Beaux-Arts.
Et nous avons une très bonne occasion avec l'un des tableaux majeurs qui fait partie des collections Perret-Simon, cette Ascension du Christ. Nous avons l'occasion de vérifier à quel point c'était un grand peintre, un peintre de premier plan. D'abord, il a l'idée étonnante de transformer une scène dont les canons, les critères, les principes sont fixés depuis des siècles et des siècles. Le sujet, c'est l'ascension du Christ. Donc je vous rappelle, le Christ est mort crucifié, on l'a enterré, et puis il est ressuscité, il est apparu en plusieurs occasions à ses disciples, et il y a un moment où il dit qu'il va remonter vers son Père dans les cieux, donc il va rejoindre la divinité. Alors, dans la religion catholique, la divinité, elle est à la fois unique, hein, c'est un Dieu unique, mais en même temps, c'est un Dieu triple, puisqu'il y a Dieu le Père, l'Esprit, qui est figuré par une colombe, l'Esprit Saint, et puis il y a le Fils, qui est Jésus, le Christ. Donc, nous voyons cette ascension qui, d'habitude, se fait avec un Christ debout. Là, le Christ est allongé. Pourquoi ? Parce que Dali veut rappeler probablement l'épreuve de la mort qu'il a encourue. Donc, il est représenté allongé, comme s'il était allongé sur le tombeau. Il est représenté aussi de cette façon-là parce que Dali a une culture immense et qu'il se souvient évidemment du Christ mort d'Andrea Mantegna. Évidemment. Et là, que propose-t-il ? Il propose un raccourci absolument inouï puisque nous avons les pieds du Christ en premier plan et que nous voyons derrière le corps se développer, mais le corps en raccourci. Et c'est là où on s'aperçoit que Dali est un peintre qui sait utiliser le raccourci sans la moindre faute. Alors au-dessus, on a une image assez complexe avec une grande atome qui est probablement le symbole du Dieu le Père. On retrouve la colombe, donc l'esprit. Et puis vous avez encore, et enfin, devrais-je dire, vous avez une figure de femme qui pleure, et on peut l'associer toujours, reprenant l'idée du Christ mort, à la Vierge de douleur, cette mère qui pleure devant son enfant décédé. Et donc, on pourrait imaginer qu'à côté de la Trinité, vous avez la Vierge de douleur. Mais en réalité, cette Vierge a les traits de Gala, donc c'est-à-dire la compagne et l'inspiratrice, la muse de Dali. Et dans cette représentation, il y a à la fois la tradition, il y a, comment dire, l'interprétation de Dali, et puis il y a des choses qui lui tiennent, qui lui sont propres, bien entendu.
Alors vous avez eu beaucoup de mal à convaincre Monsieur Simone Pérez de prêter ce tableau pour une petite raison précise.
Oui, c'est vrai.
D'abord, c'est une pièce exceptionnelle,
bien sûr. Mais... c'est une pièce unique. On sait que Dali en a fait 3 versions. Et la plus connue, parce que c'est celle que le public peut apprécier, c'est le tableau de Glasgow. Là, on a l'occasion d'apprécier le tableau de la collection Pérez-Simone, et c'est tant mieux. Monsieur Pérez-Simone était un peu réticent et on a dû le convaincre, en effet, parce que, tout simplement, ce tableau est un tableau qui est, comment dire, qui décore sa chambre personnelle. Évidemment, il a eu un peu de mal à s'en séparer. Mais enfin, bon, nous avons réussi et je crois que c'est tant mieux pour nos visiteurs.
L'exposition se clôt sur une toile de ta pièce. On évoquait l'art religieux,
oui.
Et ta pièce est aussi quand même un peintre tout à fait contemporain, mais qui s'inscrit dans la symbolique religieuse.
Alors, avec les moyens de son temps, avec son art, son écriture, et des formules qui relèvent plutôt de ce qu'on a appelé l'art informel, ta pièce, en effet, mais le tableau que nous avons est une grande composition en gris avec une espèce de clé de sol dont on peut se dire, est-ce que c'est la clé qui ouvre un au-delà? Voilà, on a en effet un tableau qui est destiné à nous faire réagir et à nous emmener dans une méditation qui n'est pas du tout une méditation de surface. Et évidemment, on revient à des caractères qui sont propres à la peinture sacrée, qui sont donc une peinture qui est destinée à nous ramener à notre intimité profonde.
Alors, c'est étonnant parce que les toiles de ta pièce que je connais sont beaucoup plus chargées, beaucoup plus... Celle-ci est particulièrement sobre, que ce soit au niveau de la peinture, des matières utilisées. Là, j'ai été surprise d'un ta pièce, j'allais dire cistercien, enfin vraiment,
oui,
trois fois rien, il est minimaliste.
Mais vous avez raison.
J'étais
mais
surprise.
Alors, puisque vous avez parcouru l'exposition, vous avez peut-être remarqué, et c'est notamment vrai pour la partie moderne de ce parcours, vous avez des tons typiquement espagnols.
Oui.
Le blanc, le gris, le marron. Et le noir. Et au fond, on peut, alors évidemment, je vais un peu schématiser et je prie à nouveau les auditeurs de m'en pardonner, mais...
Mais on mettra les photos sur le visuel.
Vous avez cette peinture qui est une peinture sévère, qui vous amène à la réflexion. Certes, vous avez eu des peintres, comment dire, au XVIIIe siècle notamment, qui ont préféré les galanteries, bien entendu. Mais le fond de l'âme espagnole, on sent que c'est un fond qui aspire à cette forme d'austérité. Et là, on en a de multiples exemples.
Vous parliez des blancs, impossible de ne pas parler de Soraya maintenant et de la
Alors,
lumière.
Bien sûr, autre aspect de cette peinture espagnole, effectivement, on ne le dit pas assez, c'est ce jeu qu'elle a sur la lumière. Et Soraya...
La réinterprétation du clair-obscur par les Espagnols.
Alors là, c'est une peinture plutôt joyeuse. Hein. Ce n'est pas une lumière noire, c'est une lumière blonde, c'est une lumière qui nous amène à la joie et à l'espérance. Alors ce peintre, c'est un peintre de la région de Valence, de la fin du 19e siècle. C'est un peintre qui... essaye de montrer l'intimité des gens qui l'entourent dans leur vie quotidienne. Ce sont les gestes de la vie courante qui l'intéressent. Alors on pourrait dire que ces gestes-là n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais au fond c'est aussi un petit peu le caractère espagnol de bien montrer que le moindre geste a son sens et sa signification. Et là nous voyons par exemple le retour de pêche avec cette femme qui est en train de trier les poissons que son mari a dû lui rapporter avant de les proposer probablement à des marchands ou à des acheteurs, et c'est fait à même le bord de la plage. Vous avez les bateaux qui sont au loin, vous avez les attelages sur le côté, des portants sur lesquels sont posés différents matériels, et puis cet homme et cette femme qui sont côte à côte. Si vous regardez le visage de l'homme, on a du mal en réalité, beaucoup de mal à repérer ses traits, parce que c'est pas ce qui intéresse Soraya. Ce qui l'intéresse, c'est la lumière.
La lumière
et alors, il va jouer sur les zones d'ombre comparer aux zones de lumière et surtout, surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'il va décomposer cette lumière en toute une série de tâches, puisqu'on le sait bien aujourd'hui, quand on fait des analyses de la lumière, on sait que ce sont plusieurs rayonnements présentant, comment dire, des couleurs pures et qui sont juxtaposés. Donc là, nous avons, par exemple, nous avons une écume de la mer, mais qui est colorée. Nous avons une chemise du pêcheur, mais qui, au lieu d'être blanche, c'est un festival de couleurs. Et avec une subtilité, il faut le dire aussi, c'est très délicat. Donc voilà, c'est une espèce de festin de lumière et de couleurs qui nous est proposé, qui est très attrayant. Et vous avez à côté de ça un autre tableau formidable qui est les attelages qui rentrent dans la mer.
Les baobins.
Voilà, qui vont se rapprocher des bateaux pour les tirer sur la plage. Et là, vous avez le bouillonnement de la mer. Alors, on imagine ces vagues qui arrivent sur le sable et qui viennent frapper le sol. Et alors, elles rebondissent en mille éclats, en mille gouttes et en même temps avec de l'écume. Et cette écume, elle est figurée avec des coups de pinceau vigoureux posés avec beaucoup de force sur la toile. Et évidemment, on sent cette vigueur. On sent cet éclat et tout d'un coup on est saisi parce qu'on se dit mais il a compris l'âme exactement de ce moment si particulier. C'est un moment crucial puisque si les bœufs ne rentrent pas, les bateaux ne pourront pas aborder. Donc c'est un événement de rien et en même temps c'est un événement capital et toute la peinture est là pour exprimer ce moment intense avec, comme on l'a vu sur le précédent tableau, cette même lumière, cette même qualité des blancs, cette même coloration qui vient imprégner tous les pans du tableau.
Dans cette exposition, il y a aussi quelques salles consacrées au corps, à la nudité, oui. Dans la peinture espagnole. Et là, on a de très beaux exemples aussi.
Oui, c'est vrai. On pourrait être étonné de rencontrer ces représentations dans la peinture espagnole. Elle n'a pas du tout ignoré la beauté, notamment du corps féminin. Et elle l'a évidemment mis en avant. Donc, nous avons quelques très beaux exemples, soit des exemples qui sont plus académiques, avec des artistes qui ont travaillé dans la suite de ce rôle-là. On montre en particulier une femme qui sort de l'eau.
Ça,
alors,
connu,
si vous voulez, c'est très étonnant
public.
Parce que du point de vue iconographique, on pense évidemment au tableau de Botticelli et à la Vénus qui sort de la mer. C'est un peu la même idée. Évidemment, la représentation n'est pas du tout la même puisque nous avons cette femme qui est vue de dos, bien sûr, mais nue. Et elle a à ses côtés une compagne qui vient la revêtir pour la sécher. Et donc, le tableau, c'est à la fois une forme féminine qui nous est proposée, toujours dans la lumière du midi, magnifique, et aussi un très bel exercice réalisé sur les voiles avec la suggestion du mouvement et du vent, puisque bien sûr on est sur la plage et que d'habitude elles sont battues par le vent. Donc vous avez ce tableau tout à fait étonnant, d'une certaine façon classique dans son idée, pas du tout classique dans son interprétation, puisque c'est assez peu fréquent, ce début du XXe siècle, de voir sur une plage une femme nue. C'est pas du tout un sujet scandaleux. C'est l'habitude, les femmes de la région allaient se baigner nues à l'époque sur les plages. Et à côté de cela, nous avons un tout petit dessin de Picasso, qui est une œuvre rare, subtil et là aussi d'une force incroyable. C'est un dessin, il faut le dire, érotique, représentant une prostituée allongée sur son lit à l'abandon. Et le caractère érotique et sexuel de l'image est montré avec une espèce de franchise très étonnante. D'autant plus étonnante que Picasso utilise des moyens extrêmement limités. Une espèce de carton commercial et vous avez une ligne qui enferme le corps de cette femme. Trois coups de, je ne vais pas dire de pinceau puisque c'est du pastel, mais vous avez trois taches de couleur et voilà, tout est dit. Toute la féminité, tout le caractère érotique de cette représentation ressort, on n'a pas besoin de plus.
Dans l'exposition, on évoquait tout à l'heure un portrait royal pour commencer. On en trouve plusieurs,
oui.
Puisque l'art du portrait, c'est extrêmement important. Peut-être que pour finir l'émission, vous pouvez nous présenter un des chefs-d'œuvre de ce parcours, le tableau de Goya de Doña Maria Teresa de Valabriga y Rosas.
Voilà. Vous l'avez bien dit.
Mais qui est vraiment un tableau...
Ah ben c'est un tableau très étonnant parce
très
que
étonnant.
Vous le regardez au premier coup d'œil et vous dites « mais ce tableau ne m'impressionne pas ».
Et puis c'est un
Goya. Oui. Donc si vous voulez, le premier coup d'œil, c'est l'impression que ce tableau, au fond, n'est pas réussi. J'ose le dire, il ne ressemble pas au Goya qu'on connaît.
Non, là encore, on est très surpris.
Mais
dans votre
s'il
repas.
Vous plaît, prenez le temps de le regarder et puis écoutez ce que je vais essayer de vous dire. D'abord, c'est l'un des premiers portraits de Goya. Donc ça, c'est important. Et il faut savoir que Goya n'appartient pas à cette famille d'artistes qui a, comment dire, reçu tous les dons dans la main à sa naissance. C'est quelqu'un qui va travailler énormément avant petit à petit de progresser. Donc là, il est au début.
L'inverse de Picasso, presque.
Voilà. Il commence dans ce genre et il ne sait pas très bien comment l'approcher. Donc le voilà, il traite cette femme en buste et il va, on le sait puisqu'on a des documents qui le montrent, il va d'abord imaginer de présenter ce portrait en buste montrant la jeune femme qui est une jeune aristocrate avec une très belle robe de dentelle décolletée. Et l'image que vous voyez à présent, c'est la deuxième étape puisqu'il a repris son tableau, il l'a retravaillé et qu'il a habillé cette figure, cette jeune femme, avec une robe et une étole de soierie. Donc une robe bleue et une étole qui est gris-bleu. Les deux matières, les deux étoffes, les deux couleurs étant destinées ici à jouer sur des subtilités chromatiques qui en effet sont assez admirables. Or pourquoi a-t-il revêtu la jeune femme ? Est-ce par pudibonderie après tout ? Alors il semble que non et qu'il est recherché parce que quand on regarde les épaules qui sont recouvertes et qu'on descend, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de bras. Et donc du coup, le portrait, au fond, tel que nous le voyons ici, dans son interprétation seconde, est un portrait qui renvoie au buste, à la grande tradition des bustes à l'antique. Et on comprend bien qu'en fait, Goya veut donner une image réduite, veut écarter tout le superfétatoire de la représentation pour se concentrer sur l'image. Donc il enlève tous les éléments qui d'habitude sont de trop et se concentre donc sur l'essentiel, c'est-à-dire le visage. Et
qui ressort d'autant plus par rapport au fond.
Évidemment, ressort d'autant plus, vous le disiez, qu'il ajoute un dernier élément, c'est-à-dire qu'il brosse un fond totalement sombre, qui n'est pas du tout dans l'usage du temps, mais ce fond sombre n'a qu'un seul objectif, permettre au visage de ressortir. Et là, nous découvrons quelque chose. Alors, nous revenons à cette image qui nous est proposée et nous apercevons cette jeune femme, après tout, dont on pourrait penser que dans la position qu'elle occupe, haute aristocratie espagnole, tout lui est donné. Par conséquent, cette jeune femme est heureuse. Eh bien non, vous voyez que son regard, malgré les traits de son visage apaisé, la beauté de sa figure, vous voyez que le regard qu'elle tourne vers nous est un regard d'inquiétude, pour ne pas dire d'angoisse. Et tout le travail de Goya a consisté à nous permettre d'accéder à ce tout petit élément, mais essentiel pour bien comprendre la personnalité de cette femme représentée. Et ça, je trouve que c'est magnifique.
C'est les premiers coups d'essai de Goya et voilà. Dans le portrait.
Et
franchement, on voit quand même...
qu'au final, même si les choses ne sont pas si évidentes, il a réussi parfaitement son affaire.
Quelle est, dans ces 50 toiles présentées au public, celle que peut-être vous préféreriez ?
Oh, il y en a beaucoup. Mais vous savez, j'ai des goûts très classiques. Alors, je vous dirais simplement le tableau qui sert d'ailleurs de couverture au catalogue, c'est-à-dire ce Saint-Jérôme de Ribera. C'est très étonnant parce que c'est un tableau qui est signé et daté 1648, et sachant que Ribera meurt en 1652. Donc on est vraiment à l'extrême fin de sa carrière. Et le tableau montre le saint Jérôme, ermite, ascèse, donc recueilli dans le plus extrême dénuement. Et on voit bien que son corps est décharné, on voit bien que les traits de sa figure sont tirés, on voit bien l'aspect dur de sa situation avec ce clair-obscur très fort qui est donné par la grotte dans laquelle il est et ce fond sombre qui l'entoure. Et on voit aussi qu'à ce moment particulier de la vie du peintre, au bout de sa carrière, il n'utilise plus les effets de matière, les empattements qu'il avait pratiqués précédemment. Et regardez le tableau qui est à côté, la Sainte Madeleine, où c'est un tableau épais qui ne joue pas sur des profondeurs de glacis, qui ne joue pas sur l'huile du tableau, sur le médium comme l'on dit, mais qui joue sur la pâte. Et là, dans le Saint-Jérôme, vous avez le dernier style de Ribera, et c'est très étonnant parce que c'est d'une fluidité totale. Et on peut se dire que là, il a gardé les mêmes effets, mais il a changé son écriture, probablement influencé par ses contemporains, c'est-à-dire son voisin Murillo.
Et puis, on ne l'a pas dit, mais on le comprend dans ce que vous venez de nous dire. La peinture de ces artistes est aussi le fruit de toutes les techniques européennes de leur époque. Et ces artistes regardent autour d'eux,
oui, oui, bien
sortent
sûr.
De l'Espagne,
oui.
Et c'est probablement la grande caractéristique.
Oui, leur, c'est une des leçons qu'on peut tirer justement de cette exposition, c'est qu'au fond, il y a une âme espagnole, il y a une espèce de permanence de ce sentiment espagnol, ça c'est très manifeste, et en même temps, il ne faut surtout pas croire, parce que les tableaux sont là pour le montrer, il ne faut surtout pas croire que les Espagnols sont, comment dire, enfermés dans leur tour d'ivoire. Loin de là, ce n'est pas la situation géographique qui les enferme dans ce bout de péninsule. Au contraire, ça va, comment dire, les amener à regarder ce qu'il y a autour d'eux. Et que font-ils ? Ils viennent en France, ils viennent en Italie et au-delà même. Et ils s'intéressent beaucoup à toutes les expériences qui y sont pratiquées. Voilà pourquoi, à certaines époques, il y a eu des Espagnols à Paris. Et voilà pourquoi, à d'autres époques, il y a eu des Espagnols en Italie. En tout cas, c'est aussi ça, et on le
mais
voit.
Mais on voit que c'est au fil des quatre siècles
voilà,
présentés.
C'est pas
on,
un
on,
moment.
On pense à Picasso, mais on ignore que
voilà.
Tout ce
Et je crois que justement ça, la collection Perez-Simon permet aussi de le vérifier.
Merci beaucoup Nicolas Sanfargarno de nous avoir présenté cette exposition du Gréco à Dali qui se déroule du 12 mars au 1er août 2010 au musée Jacques Marandré.
Merci beaucoup à vous.
Merci monsieur.